VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
11h à Conakry, midi à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. Le président américain Barack Obama est au palais présidentiel à Addis Abeba en Éthiopie pour des consultations avec le chef du gouvernement éthiopien sur la lutte contre le terrorisme et aussi une réunion avec des leaders d'Afrique de l'Est sur la situation au Soudan du Sud. Claire Morin-Djibourg.
Le locataire de la Maison-Blanche s'entretient aujourd'hui avec Hailemariam Desalegn, le premier ministre éthiopien. Il rencontrera également des chefs d'État est-africains pour évoquer le conflit sud-soudanais. Barack Obama est attendu demain pour un discours au siège de l'Union africaine. L'Éthiopie, qui participe à l'AMISOM, la force de l'Union africaine combattant les islamistes Shabab en Somalie, est un allié crucial des États-Unis dans sa lutte contre le terrorisme dans la Corne de l'Afrique. Mais le pays est aussi régulièrement accusé de violer les droits de l'homme et notamment d'étouffer les critiques émanant de journalistes ou d'opposants politiques.
À noter qu'à l'approche des consultations d'Addis Abeba sur la lutte contre le terrorisme, le département d'État américain a annoncé l'octroi de 43 millions de dollars d'aide pour contrer l'extrémisme violent en Afrique de l'Est, en plus des 465 millions prévus pour financer la formation et la livraison de matériel, notamment pour soutenir les efforts contre l'extrémisme dans toute l'Afrique. Crise au Burundi, les Burundais sont déterminés à défendre l'accord d'Arusha qui a ramené la paix dans leur pays malgré le forcing électoral du président Pierre Nkurunziza pour sa propre succession en violation de la constitution nationale. C'est ce qu'a dit à la Voix de l'Amérique le leader d'opposition François Nyamoya, secrétaire général du Mouvement pour la solidarité et la démocratie MSD. On l'écoute au micro d'Éric Manirakiza.
Il va au-delà de grandes difficultés, mais si ce n'était que sa propre personne, ça irait. Mais le problème, c'est qu'il emmène tout un peuple dans de grandes difficultés, parce que au-delà des élections qui sont pas crédibles, je le répète, il y a derrière tout cela l'accord d'Arusha, qui est la colonne vertébrale de la paix au Burundi. Et il est évident que cette élection a mis à mal non seulement l'accord d'Arusha et la Constitution, mais il hypothèque l'avenir parce que notre pays a été fondé justement sur l'accord d'Arusha comme garant de la paix.
Vous parlez justement de l'accord d'Arusha. Est-il possible aujourd'hui de le faire respecter?
Il n'y a pas de choix. Il faut distinguer deux choses. Il y a la volonté du président de la République et son équipe de violer la Constitution et même de l'abolir d'une certaine manière, ça c'est sa volonté. Mais ça ne peut pas marcher, nous sommes tous obligés de le défendre. Et il aura en face de lui des gens déterminés à défendre l'accord d'Arusha. Donc nous allons nous battre et nous serons nombreux à résister pour que l'accord d'Arusha reste debout.
Il y a eu des manifestations dans la capitale, dans certains coins de l'intérieur du pays, mais malgré tout ça, ça n'a pas eu des effets pour faire résonner le président Nkurunziza.
Ces manifestations ont montré à quel point la population burundaise est attachée aux accords d'Arusha et à la Constitution qui en est issue. Le point positif, malgré tout, c'est que le président Nkurunziza sait que le peuple n'est pas avec lui et qu'il a violé en fait le peuple. Donc, il n'a pas voulu entendre cette voix. Mais à court terme et à très court terme, ça se retournera contre lui, puisqu'on ne peut pas gouverner contre son peuple. C'est impossible.
Maître François Nyamoya, secrétaire général du MSD au Burundi. Au Congo-Brazzaville, l'opposition a ouvert hier son propre dialogue dans la capitale en réponse à celui que le gouvernement a récemment tenu à Sibiti. Le point avec notre correspondant à Brazza, Nguela Ngusu.
Le dialogue alternatif de l'opposition qui s'achève mercredi prochain serait-il le résultat du manque de consensus recherché plus tôt à Sibiti? En tout cas pour Pierre Ngolo, le secrétaire général du PCT, le parti au pouvoir, c'est une très mauvaise interprétation du communiqué final que de penser qu'il n'y a pas eu consensus sur le changement de constitution à Sibiti.
Au niveau de la plénière du dialogue, il y a un consensus qui s'est dégagé. Le communiqué final est clair quand il dit: en considération de ce qui précède, les participants au dialogue ont par consensus opté pour les réformes institutionnelles et s'en remettent au président de la République, initiateur du dialogue, pour qu'il en tire les conséquences conformément à ses prérogatives constitutionnelles. Donc il y a un consensus qui dépasse les divergences constatées dans le débat.
Faux, rétorque Joseph Kinyumi Kyambungu, député de l'opposition qui s'est rendu à Sibiti et qui estime que le président Denis Sassou Nguesso, en tirant les leçons de Sibiti, doit tenir compte de l'opinion qui s'oppose catégoriquement au changement de constitution.
La majorité pensait qu'il fallait changer. Et nous, l'opposition, nous avons dit non, il n'y a pas de raison de changer. Donc, il n'y avait pas déjà consensus autour de cette question. Il n'y avait pas de consensus. Et il n'y en a pas eu jusqu'à la fin. Il y a eu trois tendances. À partir du moment où nous n'avons pas de consensus, il fallait, s'ils étaient logiques avec eux-mêmes, les trois tendances devaient discuter pour arriver à un consensus. Maintenant, nous attendons ce que le président fera de sa copie. Et il savait très bien qu'avant même ce dialogue, il y avait des points de vue qui étaient différents. Je crois que le dialogue alternatif, comme il le qualifie, parlera certainement du non au changement de la Constitution.
Gwelan Goussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Mali, blocage dans la mise en application de l'accord de paix d'Alger. Les travaux du comité de suivi sont suspendus. Notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré, nous en dit plus.
La troisième session des travaux du comité de suivi de l'accord pour la paix au Mali a permis l'adoption du règlement intérieur de ce comité. La convergence tant souhaitée pour la représentativité des membres de ce comité n'a pas été possible, d'où le blocage et la suspension des travaux. Nourdine Ayadi, ambassadeur de l'Algérie au Mali, chef de la médiation.
Nous sommes très proches d'un accord sur cette question, mais nous n'avons pas encore un accord total. Des consultations se poursuivront et nous avons bon espoir que nous parviendrons à un accord définitif sur cette question.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Par ailleurs, le ministre de l'administration territoriale a annoncé que la date des élections communales et régionales est fixée au 25 octobre. Mais certains partis politiques désapprouvent. Ils font état de préalable dans le cadre de l'application de l'accord de paix qui n'ont pas encore été respectés. En Guinée, le principal leader d'opposition, Seloud Alain Diallo, désigné samedi candidat à la présidentielle d'octobre par son parti, après avoir conclu une alliance controversée avec l'ex-chef de la junte, Moussa Dadis Camara, inculpé pour le massacre d'opposants en 2009 à Conakry. On écoute Seloud Alain Diallo.
Le projet que je vais de nouveau présider sera un parti cohérent, ouvert, sans clan ni faction et dont je garantirai l'unité. Je m'engage à être un président gardien vertueux de notre constitution. Je m'engage à être un président respectueux de la parole donnée et des engagements pris. À être un président de l'indépendance de la justice, de la neutralité et de l'impartialité de l'administration. Je m'engage à être président d'une Guinée apaisée et réconciliée. Sans un processus électoral transparent et équitable, il n'y aura pas d'élection. L'UFDG et les partis amis et alliés de l'opposition républicaine ne participeront pas à des simulacres d'élection pour légitimer une victoire acquise d'avance. Notre vocation, c'est de participer aux élections, mais à des élections transparentes. Et si elles le sont, si nous perdons, nous allons le reconnaître. Si nous gagnons, nous n'accepterons pas que notre victoire soit confisquée.
Le leader guinéen d'opposition, c'est Seloud Alain Diallo. En Sierra Leone, le président Ernest Koroma annonce un plan de relance post-Ebola visant à redresser non seulement l'économie nationale, mais aussi les secteurs de la santé et l'éducation. Le projet sera mis en place alors que le pays ne compte plus que 3 malades d'Ebola seulement. Anne Albertson.
Le plan de relance du président sierra-léonais fait suite aux promesses de financement recueillies le 10 juillet dernier lors d'une conférence internationale des Nations Unies consacrée à la lutte contre Ebola. Plus de 804 millions de dollars ont été promis pour la Sierra Leone, permettant la mise en place de ce plan de bataille pour vaincre Ebola, comme l'a intitulé le président Koroma. Peu de détails sur le déroulement de ce plan, mais le président s'est donné 9 mois pour redresser le pays et 2 ans pour retrouver le chemin de la croissance. Selon le communiqué de la présidence, le secteur privé doit être revigoré, le réseau routier transformé et l'accès au marché amélioré. L'accès à l'eau et à l'énergie sera parmi les priorités. La Sierra Leone devrait également bénéficier d'une partie de l'enveloppe supplémentaire de 1,7 milliard de dollars, promise également à New York pour une relance régionale.
Et pour terminer, les États-Unis approuvent les raids aériens et les pilonnages d'artillerie de la Turquie, à la fois contre les militants de l'État islamique en Syrie et aussi les rebelles turcs-kurdes du PKK dans le nord de l'Irak. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.